Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
Ça faisait des années, des années, des années que des gens me disaient « Mais tu devrais en faire quelque chose, tu devrais faire des stages, tu devrais faire des conférences, il faudrait que tu fasses un bouquin, tu peux pas ne pas utiliser ça, etc. » Mais comme pour moi, c'est un truc, si tu veux, Charlotte, qui est totalement naturel, qui est simplement ma façon d'être, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose qui puisse se monnayer ou qui puisse devenir une carrière. J'espère que vraiment, à un moment, on pourra opérer ces changements de vie sans être obligé de se faire passer par ces moments de pire violence qui peuvent paraître des phénomènes extérieurs, qui peuvent paraître des trucs de « ah bah, pas de chance ». Moi, je crois pas trop à ce truc de loterie, là, de chance, pas de chance. Je crois que on a pas mal de chemin à parcourir pour apprendre à avoir le droit de changer de direction dans la vie sans devoir passer par ce genre d'extrême violence contre soi.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Une des choses que j'apprécie énormément avec le podcast, ce sont les rencontres que je fais. La diversité des parcours de mes invités, mais aussi leur personnalité et leur histoire. Ceci est mon dernier épisode avant de prendre des vacances. Quel magnifique premier semestre passé en votre compagnie. J'ai déjà enregistré plusieurs épisodes de la rentrée et mon agenda se remplit. J'ai hâte de vous faire écouter toutes ces personnes merveilleuses. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je vous fais un petit teasing sur la personnalité que je vous présenterai à la rentrée. Petite parenthèse, si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait également partie de mes plaisirs de lire vos retours. Revenons-en à Franck. Franck a commencé les études d'histoire de l'art, mais il a très rapidement transformé son petit boulot de vendeur en porte-à-porte en travail. Après plus de 20 ans à faire les marchés, Franck écoute les autres et décide de se lancer en tant que conférencier philosophe. Avec plus de 5 millions de vues sur le web, Franck est une pointure dans son domaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Franck Lovay.
Bonjour Franck.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien, je dois vous avouer que très spontanément, je suis parti sur ce que j'avais dans la poche et j'ai toujours un canif, un couteau pliant dans ma poche qui m'accompagne depuis des années. Donc finalement, j'imagine que il doit bien symboliser quelque chose chez moi.
Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Qu'il symbolise.
Le symbole sous-jacent. J'imagine en fait que, enfin en tout cas pour moi c'est l'outil qui me permet de me dégager. C'est-à-dire que le couteau au départ c'est pour pouvoir couper des ficelles rapidement. Quand je travaillais sur le marché, qu'il y avait du vent, je me rappelle que j'avais toujours besoin de ça sur moi. Mais en même temps ça me parle bien de mon envie d'être tranchant. De mon envie aussi d'être pratique. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Et puis sinon, pour la véritable symbolique pour moi, ça me renvoie sur lorsque j'étais petit, ça me ramène sur les Vosges. Et quand j'étais petit, j'avais toujours un canif à la main pour tailler un bâton, pour faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui est resté comme ça de l'ordre de, j'imagine, mes rêves de chevalier de gamin, quoi.
Eh ben, c'est une super transition pour que tu nous racontes où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi.
Eh bien, je suis né près de Paris parce que les circonstances étaient comme ça, mais j'ai très vite grandi dans les Vosges, dans un petit village. Donc, dans un endroit où il fait moche, mais on pousse bien droit parce qu'il y a de l'eau, il y a de la bonne terre, il y a du cadre, il y a de la chaleur humaine.
Ouais.
Donc, un cadre idéal pour pousser dans une famille pleine d'enfants.
Vous étiez combien d'enfants ?
Un truc assez cool. On était 5 enfants.
D'accord.
Donc moi, je suis le deuxième.
Bravo, maman.
Ouais. C'est ça, bravo maman, courageuse maman. Mais voilà, c'est parti là-dessus, le contexte. Assez confortable, le cadre de la nature pour grandir.
Ouais. Et quel type de petit garçon tu étais?
Aujourd'hui, je sais pas si on a le droit d'utiliser ce genre de d'image, mais j'avais un petit penchant pour l'introversion, un petit poil autiste sur les bords en prenant le mot à la légère, puisque bon voilà, évidemment pas de syndrome de particulier, mais sinon ouais, plutôt comme ça, le très dans mon monde intérieur, très lunaire comme garçon, et aussi très porté sur le dépassement physique de lui, comme s'il devait toujours montrer qu'il savait courir plus vite, sauter plus haut ou faire ce genre de truc, quoi.
Ouais.
Un garçon démonstratif, bien qu'introverti.
Ah oui, ça c'est intéressant. Pourquoi démonstratif ?
Parce que j'ai toujours utilisé toutes les stratégies à ma disposition pour capturer l'attention des adultes, qui me paraissaient être essentielles à la survie, tant à la maison qu'en milieu scolaire. Pour moi, il fallait que les adultes soient de mon côté, donc j'ai développé très tôt des stratégies pour leur montrer quelque chose, leur dire je suis dans le corps d'un enfant, mais je suis de chez toi déjà. Et donc quelque chose comme ça, où je cherchais cette connivence. Et puis sinon introverti, tout simplement parce que timide, parce que pas sûr de son pouvoir.
Ouais. Et quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves d'enfant?
C'était devenir exactement ce que je suis devenu aujourd'hui, puisque quand j'étais petit, je jouais à l'agent secret et au ninja. Donc l'idée, si c'est de voir sans être vu, ou d'être chez les gens sans qu'ils sachent qu'on y est, c'est un peu devenu mon boulot, puisque aujourd'hui, par mon travail et les relations humaines que j'ai tendance à me retrouver dans l'intime des gens, dans leur monde intérieur, alors qu'eux se sentent encore bien à l'abri, puisque un écran nous sépare, ou une distance nous sépare, ou des croyances nous séparent.
Ouais. Et quand tu as eu une enfance entre guillemets paisible, parce que est-ce que tu as l'air de dire, quand il y a eu le moment de se dire qu'est-ce que je vais faire, l'orientation, comment ça s'est passé pour toi?
C'est quelque chose qui s'est jamais produit pour moi. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de choix conscient de je vais aller par là ou je vais aller par là. J'ai été guidé par mon instinct dès les premiers choix à poser. Et du coup, en fait, quand un choix est instinctif, il ne passe pas par la case mentale. Et du coup, on ne se rend pas compte que s'opère un choix, puisque simplement on suit notre ventre. Et moi, en fait, ce sont mes amours qui m'ont dirigé. C'est parce que telle fille était là que je faisais tel genre d'études, et puis que je lâchais la fac parce qu'elle était maintenant ici, ou que c'était une autre. Mais c'est mon ventre qui m'a dirigé, pas ma tête, quoi, jusqu'alors.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études?
J'ai fait un bac littéraire. Je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art. Et j'ai fait 2 ans d'université comme ça, mais sur les 2 ans d'inscription en réel sur place, ça doit se compter en semaines peut-être ma présence sur place.
Parce que
très vite étudiant, ça signifiait gagner sa croûte. Donc j'ai cherché un petit boulot. Moi, je débarquais de ma campagne, j'étais vraiment dans un trou, et là, j'arrive dans une ville moyenne, j'étais à Nancy, en Lorraine. Et puis là, je vois une annonce dans le journal où on dit qu'on cherche des gamins des jeunes pour aller travailler dans la vente, apparemment, en porte-à-porte. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je me suis présenté, puis j'ai fait une journée de boulot, et puis j'ai pas compris quelle était la difficulté de ce travail, puisqu'il s'agissait de toquer aux portes puis de vendre un truc aux gens. Moi, j'avais jamais rien vendu de ma vie, mais il s'est avéré que je l'ai compris qu'après, j'avais dans le sang l'habitude, le senti, le je sais pas quoi, qui fait que je savais exactement ce qu'il fallait dire, et donc je vendais quasiment à chaque fois. Et donc très vite, j'ai arrêté de bosser, puisque j'ai arrêté les études et tout ça, puisque au bout de quelques semaines, en fait, je gagnais plus que mes parents. à faire un boulot qui me semblait être plutôt une vaste rigolade qu'un boulot. Donc voilà, ça a changé ma direction et je me suis mis à vendre des trucs.
D'accord. Donc là, du coup, tu étais en petit boulot. Enfin, tu vendais quoi comme type de choses?
Ouais, on vendait des trucs en porte-à-porte. Donc, c'est les systèmes d'arnaque traditionnels avec, si tu veux, différents niveaux d'arnaque là-dedans. Il y avait des gentils dont je faisais partie et puis des moins sympas qui vendaient des trucs impossible et à n'importe qui. Mais disons que non, c'était gentil, tu vois, comme un truc d'étudiant où tu vas vendre des brioches, des bonbons, des trucs en porte-à-porte sous prétexte d'un stage, d'un truc du genre. Et moi, surtout, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que lorsque la personne ouvrait la porte, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est quand elle me disait « je vous préviens, je vous achèterai rien ». Et là, il y avait un espèce de challenge qui se mettait en place dans une lutte psychologique et ce qui finissait invariablement par un chèque et par un « ah bah c'est bien parce que c'est vous ». Et moi, j'adorais obtenir ce « ah bah c'est bien parce que c'est vous » qui était finalement bien plus trippant que l'argent que j'allais récolter, quoi.
Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, la vie, Charlotte, la vie. Tu montes une petite structure, puis après il y a l'armée qui me rappelle, puis après une autre histoire d'amour, puis un autre business, et puis la vie qui va et qui vient, et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé donc dans la peau d'un gars qui vend des trucs. Alors oui, c'est facile pour lui, mais bon, voilà, qui vend des trucs. Et puis un jour, après encore des changements de vie dus au couple, etc. Je me suis retrouvé à travailler sur les marchés. Là, j'avais changé de vie déjà puisque je m'étais installé dans le sud de la France. J'étais près du Lavandou, Bormes-les-Mimosas, là-bas sur la côte varoise. Et je faisais mon petit boulot de marché. Et puis là, en fait, depuis que j'avais 15 ans, hein, c'était quelque chose qui était en parallèle de ma vie professionnelle. J'étais versé dans la question de l'humain, de comment ça marche chez eux, c'est quoi les fonctionnements, qu'est-ce que vous avez dans le ventre, qu'est-ce que vous avez dans la tête. Et j'avais pris le coup, parce que j'étais aussi d'une famille où on avait le droit d'échanger sur ce genre de notions, d'aller chercher comment ça marchait chez les gens, comment fonctionnaient leurs esprits, l'inconscient, voilà, comment se déroule une vie d'humain. Et puis j'avais pris donc le coup d'être le gars de bon conseil, le gars qu'on va voir, le gars qui te remet les idées en place ou te change ta perspective à propos de quelque chose, etc. Et ça faisait des années, des années, des années que des gens me disaient « mais tu devrais en faire quelque chose, tu devrais en faire des stages, tu devrais faire des conférences, il faudrait que tu fasses un bouquin, tu peux pas ne pas utiliser ça, etc. » Mais comme pour moi, c'est un truc, si tu veux, Charlotte, qui est totalement naturel, qui est simplement ma façon d'être, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose qui puisse se monnayer ou qui puisse devenir une carrière. Ou tu vois, ça me paraissait, mais vraiment…
Souvent, le talent est quelque chose qu'on a en dîner et où c'est grâce au regard des autres qu'on se rend compte qu'on a quelque chose d'exceptionnel.
Et absolument. Et du coup, j'ai dû écouter les autres. C'est-à-dire que moi, ma petite voix, je ne l'ai jamais écoutée. Et c'est ça qui est assez marrant avec ton podcast, qui renvoie sur l'idée d'entendre et peut-être de pouvoir obéir à la petite voix intérieure. Et là, je vois en fait que cette petite voix, elle a été une petite voix extérieure qui, finalement, multipliée, m'a emmené à un endroit où j'ai été obligé de me rendre compte que, bon, si tout le monde me dit ça, au lieu d'imaginer que tout le monde se trompe à propos de moi, ce serait peut-être quand même intéressant que je me demande s'ils n'avaient pas un petit peu raison et que, du coup, je puisse éventuellement tester, me lancer dans autre chose. Et puis, évidemment, bah, puisque je suis là avec toi, tu vois, le succès a été au rendez-vous. Voilà, je suis maintenant en place, connu et reconnu pour mon boulot. Et ça a été très, très, très facile.
Ouais, comment ça s'est donc, du coup, quand tu as commencé à écouter, en effet, la petite voix extérieure, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, pour…
J'ai traversé le sentiment de l'usurpateur et de l'imposteur, qui sont des sentiments inhérents à tout plongeon dans l'inconnu. Donc, j'étais pas encore… avec l'assise et la reconnaissance que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai dit, OK, je vais faire un stage. Bah, alors, hop, c'est parti, je vais faire un stage.
Donc, tu as créé un stage où des personnes pouvaient s'inscrire?
Ouais, alors j'ai créé un stage Donc, si tu veux, la première fois, c'était une après-midi, tu payais 50 balles et tu venais me voir. Donc, évidemment, je connaissais absolument personne et personne n'était prêt à me donner 50 balles pour venir me voir. Surtout que jusqu'alors, les conseils étaient gratuits puisque je parlais à tort et à travers et que comme je pensais avoir la science infuse, j'avais aucune difficulté à être le redresseur de tort de service. Mais du coup, il a fallu que je bouge tout ça et je me suis inscrit à la médiathèque de mon village, donc un petit village du Var où ils avaient une médiathèque. Ils ont dit oui, un espace de réunion. Donc j'ai mis quelques encarts dans le village en disant voilà, je fais une réunion d'information à la médiathèque. 16 personnes sont venues.
Donc on payait 50 euros.
Non, 16 non. Personnes qui sont venues gratuitement.
D'accord,
à
ouais, t'as testé en gratuit.
Fait une réunion pour dire voilà, je vais faire un stage, voilà ce que je propose et voilà okay. Ce que je crois que je sais faire.
C'était un webinaire de présentation de programme avant l'heure, quoi.
Ouais, c'est ça. Et là, du coup, je me suis retrouvé avec 8 personnes qui se sont inscrites, donc ce qui était inespéré sur 17 ou 16 personnes à la petite conférence. Et puis, on a passé cet après-midi ensemble. Et puis, j'ai commencé ma première phrase qui était quelque chose de l'ordre de « Ce qui te coince dans la vie, c'est… » Et quand j'ai commencé cette phrase, je savais pas comment elle allait finir. Et puis, en fait, bah, elle s'est finie. Il s'est avéré que ça parlait énormément à la personne là. Puis, j'ai fait la suivante, puis la suivante. Et puis, ils ont été contents. Ils en ont parlé chez eux. Et puis, voilà, de fil en aiguille, me voilà aujourd'hui avec mon carnet de rendez-vous bien plein.
Et donc là, à ce moment-là, donc j'imagine que tu n'as pas lâché les marchés tout de suite. Et à partir de quand tu as commencé à lâcher le marché?
J'ai lâché le marché lorsque ça me rapportait plus de faire des stages que de vivre le marché. Lorsque d'un seul coup, j'avais besoin de débloquer du temps, etc. quoi. Donc, mais ça a été extrêmement rapide. Hein. Il y a dû avoir une petite année de transition. Ouais. Et puis c'était parti, quoi. C'est parti vite et fort, en fait.
Super. Et ton premier livre, du coup, Un homme de bouffe, comment ça s'est passé, cette démarche?
Alors, ça, c'est pareil. C'est assez sympa parce que c'est une non-démarche, si tu veux. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui est une éditrice, qui m'a dit, voilà, moi, j'aimerais bien faire une interview avec vous, puis éventuellement, du coup, en faire un livre. Donc, elle est venue à la maison, on a parlé pendant 5 heures, elle a enregistré, puis elle est rentrée chez elle, elle a écrit le bouquin, je l'ai relu, validé, et hop, et roule, quoi. Donc,
c'est chouette quand on écrit le bouquin pour toi. Ça va plus vite.
C'est ça. Donc, j'ai juste à vérifier que c'était bien mes mots qui étaient dedans. Ouais. Y en a quelques-uns qui m'ont échappé parce que j'étais peu professionnel. Mais
pourquoi?
En même temps, pardon?
Tu penses à quoi comme mots qui t'ont échappé?
Il y a un titre du bouquin qui s'appelle « L'argent ou l'art des gens », avec un espèce de jeu de mots que je trouve totalement hors contexte. Je vois pas vraiment le lien entre l'argent et l'art des gens. Enfin, comme si, en fait, on avait de l'argent quand on était doué dans l'art, ou comme si c'était l'art de la relation qui amenait... Enfin, j'ai trouvé ça un peu baltringue, et le titre est pas de moi. C'est assez marrant, mais c'est bien dans mon bouquin. Mais bon, c'est un des détails comme ça. Après, si tu veux, ce bouquin, voilà, c'est 5 heures de jaillissement comme ça, d'une petite fenêtre. On était en 2015, je crois. Et voilà, aujourd'hui, je regarde ça avec tendresse dans la spontanéité dans laquelle j'ai sorti tout ça. Mais je suis bien plus fier de Ton autre vie, là, le bouquin qui... le bouquin qui vient de sortir, qui lui est bien plus abouti, c'est-à-dire que celui-là, j'ai pesé les mots, je les ai réfléchis, j'ai tourné les phrases, je sais pourquoi c'est écrit comme ça, je sais comment on peut le lire depuis différents niveaux, etc. Et c'est pas le même délire, quoi.
Et donc là, c'est toi qui l'as écrit?
Là, oui, évidemment, là, c'est moi qui l'ai écrit du début à la fin, quoi.
Et comment ça s'est passé? Donc là, du coup, t'es édité par Erol.
Ouais.
T'es venu avec un projet ou est-ce qu'ils sont venus te chercher? Comment ça s'est passé?
Non, ils sont venus me chercher. D'ailleurs, il y a plein de boîtes qui sont venues me chercher. C'est assez cool. Je dois avouer que dans mon domaine, en fait, on ne doit pas être si nombreux. Je suis relativement courtisé. Donc, j'ai eu des super éditeurs qui m'ont contacté. Et là, j'avais eu un super contact avec la directrice de la publication, de cette collection en tout cas, qui s'appelle Anne Guéquière. Et voilà, avec elle, ça a bien matché, on s'entend bien, elle sait laisser un espace d'expression libre, et voilà, donc roule, quoi.
Ouais. Elle t'avait interviewé d'ailleurs dans son podcast précédemment.
Oui, c'est ça, j'ai fait des podcasts avec elle, Oui, bah voilà, ça se passe bien. Puis pour moi, c'est facile. Hein, comme tu pourras le vérifier ensemble, dès qu'on me pose des questions, il y a des réponses qui arrivent. Donc, comme il n'y a pas de fin pour les podcasts, c'est pratique.
C'est ça. Et dans ton livre, tu dis que dès l'adolescence, tu as commencé à chercher, sinon la solution, au moins la porte de sortie.
Oui. Oui, bah oui, c'était quelque chose d'important pour moi, de ce qui m'a toujours travaillé quand j'étais ado, j'arrivais pas à assumer d'être un être humain. Quoi. Je trouvais ça sale, je trouvais ça dégueulasse. Il y avait quelque chose de trop violent, de trop impossible. Je ne comprenais pas en fait comment on pouvait être fier de là, de se revendiquer de là, et d'autant plus dans la peau d'un homme. Parce que ça compliquait pour moi doublement la tâche, quoi. Tu vois, à la limite, être une femme en ce monde, ça me paraissait plus acceptable dans l'idée. Mais alors, être un homme, à l'époque où, je sais pas si toi t'as connu, mais c'est Renaud nous sortait sa chanson sur Madame Thatcher, qui était en fait une ode aux femmes et à la connerie des hommes. Et moi, j'ai pris tout ça en pleine gueule en me disant, mais oui, mais grave, j'étais pas content de faire partie du troupeau, je te le dis.
Ouais.
Et voilà, donc il y a eu tout un cheminement qui au départ a été comme un désir de fuite, qui a pris différentes couleurs, quoi, hein, parce que la fuite a bien des couleurs. Et puis aujourd'hui, ça y est, je suis tranquille, je suis content d'être moi, content d'être sur cette planète, et tout a repris sa place.
Et quand, dans tout ce cheminement, comment ça s'est passé avec la relation avec, par exemple, tes parents, ton entourage proche? Comment ils ont vécu tout ça?
Mes parents, écoute, comment ils ont vécu tout quoi?
Bah, ton cheminement, le fait que, enfin, un ado qui dit qu'il n'est pas fier d'être un humain, ça n'arrive pas à tous les parents de devoir vivre ça.
Je pense que beaucoup d'ados le pensent. Après, en fait, je crois pas leur en avoir parlé. Je pense qu'ils portaient exactement les mêmes symptômes. Mon père était un homme très très engagé dans sa vie d'homme, qui avait une conscience du travail, d'élever une famille et du boulot que ça générait. Quelqu'un qui a endossé le rôle avec plaisir et panache. Donc un homme de ce type-là, mais chez qui on ne pouvait pas ne pas déceler l'écorché vif au fond, l'artiste qui n'a pas le temps de s'exprimer parce que d'abord il donne à manger à ses gosses et qui au fond est habité par le même aspect, j'ai envie de dire délicat ou lunaire, qui renvoie sur un homme qui lui non plus ne se trouve pas dans les codes obligatoires du fameux mâle blanc de plus de 50 piges. Et quant à ma mère, elle partait avec une construction tout à fait alambiquée. Ma mère est mi-française, mi-algérienne, avec un pied de chaque côté de la culture, une enfance chaotique, un caractère fort, une gitane hippie, mais maman. Et puis elle aussi s'est posée plein de questions, et c'est par son cheminement en fait que ses enfants ont eu les outils de réflexion pour ce qui est de penser à la vie. C'est parce qu'elle a commencé de se poser des questions, de chercher des réponses, que nous, les enfants, avons eu des outils qui nous ont permis ensuite d'avoir des avis et de creuser tout ça, quoi.
Et ils faisaient quoi comme métier, tes parents?
Alors, mon père, il était dans l'informatique, donc il dépannait, installait des ordinateurs, et il était professeur d'aïkido.
D'accord.
Et ma maman était prof d'aïkido aussi au club enfant, et elle était donc mère de 5 enfants, ce qui est un métier.
Oui, c'est un vrai métier en tant que tel.
et guérisseuse à ses heures, puisque à partir de, je sais pas, 87 ou 88, un truc comme ça, elle s'est mise à recevoir des gens pour faire des soins de magnétisme, de la rebouteuse du coin, quoi.
D'accord. Et ça, comment tu l'as vécu, que ta mère soit une rebouteuse?
On l'a vécu d'une manière tout à fait naturelle. On voyait des gens entrer en boitant et ressortir sur deux pieds, donc on était fiers, nous. On trouvait ça super. Et puis, ça a amené plein de frais, plein de neufs dans cette maison où, d'un seul coup, on s'est posé des questions, on a réfléchi à des tas de trucs, on a soulevé des pistes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, super riche, quoi. C'était vraiment génial qu'elle s'ouvre à ça, quoi.
Et est-ce que tu penses que toi, t'as pu hériter de certaines choses liées au magnétisme de ta maman?
Non, je souscris pas à ces thèses-là. Pour moi, tout ça, c'est des enfantillages. C'est maintenant, je suis un véritable professionnel de la conscience humaine et je ne joue plus avec les histoires de j'ai un don, c'est ma grand-mère et nanani et nanana. Non, on a dépassé ces stades-là. N'importe quel humain qui pose sa main sur le corps d'un autre a une action thérapeutique, tout simplement parce que de l'énergie est échangée et que l'énergie est intelligente, tout simplement parce qu'elle répond à l'ordonnancement de la vie, de la nature et du principe de perfection qui préside à la nature sur notre planète. Après, on peut s'attribuer ça sous forme de dons, de qualités, de talents, de machins. Moi, je souscris pas trop. Je trouve que c'est simplement un truc naturel et que les gens, lorsqu'ils décident de le faire, le font, et lorsqu'ils le font souvent et avec application, ils deviennent des spécialistes.
Ouais, tu crois pas qu'il y ait des personnes qui ont plus entre guillemets un fluide ou quelque chose comme ça que d'autres?
Non, je pense qu'il y a ceux qui font et ceux qui font deviennent, et il y a ceux qui font pas et ceux qui font pas deviennent pas. D'accord. Mais qu'on est bien sur cet adage fondamental du forgeron qui forge. Je pense que n'importe qui peut faire un podcast, et pour que ça soit un podcast comme le tien, faut en faire souvent, beaucoup, et au bout d'un moment, on sait faire quelque chose que tout le monde peut faire, mais on le fait, comme Charlotte le fait, et c'est ça le truc.
Et pour toi, le fait, là tu dis qu'aujourd'hui donc t'es un spécialiste, t'es un professionnel dans la matière. Comment t'es devenu professionnel?
En le faisant, en forgeant. Moi, j'ai fait aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, et j'ai dépassé les 10-12 000 personnes rencontrées en physique en stage. Donc tu peux pas visiter 12 000 structures humaines et leur fonctionnement et leur stratégie de survie et de compréhension, tu peux pas faire tout ça sans que ça soit anodin. Et effectivement, lorsque je vois mes premiers efforts pour obtenir de l'information dans un fonctionnement humain, et aujourd'hui, la différence, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment la différence qu'il y a entre quelqu'un qui passe le permis et quelqu'un qui est pilote de mécanique automobile, quoi. Ouais. Je peux me poser aujourd'hui en disant je suis un professionnel de ça parce que c'est ma profession, parce que je fais ça toute l'année, très souvent, et donc forcément, même si on part tous sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec absolument le même talent, je pratique énormément celui-là.
Tu dis dans ton livre que il y a un sens caché derrière chaque épreuve de la vie, et toi tu racontes aussi dans le livre que tu as fait un AVC. Quel a été du coup pour toi le sens derrière cet AVC?
Alors il y a de multiples sens. Le premier, en fait, c'est, on pourrait dire, ce qui mène au bout la question que se posait l'adolescent chez moi, c'est-à-dire ah bon, tu veux rentrer chez toi? Es-tu toujours d'accord pour partir? Parce que très bizarrement, dans une semi-conscience, j'ai assisté à une espèce d'échange entre des versions de moi, des parts de moi qui réfléchissaient aux enjeux et à la possibilité de ne pas revenir ou de revenir. Donc il y avait cette notion-là. Il y a aussi la façon par laquelle il est intervenu. C'est-à-dire que c'est un étirement d'une veine, une malformation d'une veine. C'est-à-dire que j'étais vraiment en pleine santé. Et donc, c'était impossible de déceler ce genre de fragilité dans mon corps. Mais en fait, ça représente vraiment cette veine qui s'étire dans la moelle épinière. Ça représente vraiment ce type qui est les pieds sur terre parce qu'il a sa boîte à faire tourner, il a 3 enfants, il a une vie à vivre. Et en même temps, qui passe son temps totalement collé au plafond dans une quête spirituelle qui n'a pas de cesse, puisqu'en fait, l'idée, c'est carrément de fuir le plan de l'humain et qui se retrouve parfaitement étiré dans son énergie. Et j'aime beaucoup cette synergie, puisque pour moi, l'AVC, s'il a signé quelque chose, ça n'est pas l'ouverture de perception particulière chez moi ou quoi que ce soit de ce type-là, mais simplement le point de départ du réatterrissage dans mon corps d'humain, de devoir accepter d'être moi, mon identité, d'être un humain, puis d'être un homme, puis d'être un fils, puis d'être un père, etc., jusqu'à devoir accepter d'être Franck et de lui foutre la paix à celui-là, quoi.
T'avais quel âge, du coup, au moment de cet AVC?
J'avais 40 ans.
Et qu'est-ce que t'as changé? C'est entre le moment où t'es... là, à ce moment-là, tu disais que t'avais ton entreprise. C'est le moment où du coup t'es reparti sur les marchés.
Non, effectivement, en fait, ça correspond à un moment où j'étais en train de lâcher toute cette ancienne vie. Il y a eu vraiment l'AVC correspondait exactement à mon changement de vie où j'ai changé de couple, j'ai changé de métier, j'ai changé de région, j'ai déménagé. Donc, je suis mort et je suis revenu. C'était parfaitement logique. Ça se tenait. Dans l'ensemble, ça se tenait. Et on voit, en fait, comment pour un garçon comme moi, ce genre de changement était finalement quelque chose de super anxiogène et de dangereux. Changer de vie, pour moi, ça a dû passer par devoir accepter l'idée d'en mourir. Quoi. C'était évidemment d'une manière inconsciente, mais chez moi, c'était fortement inscrit comme ça. Mais voilà, tout s'est bien passé. Quoi.
Ouais, tant mieux. C'est marrant parce que tu vois, quand j'ai fait mon burn-out et qu'il y a eu le moment où je me suis dit c'est impossible d'y retourner, enfin de retourner dans ma vie d'avant, j'ai vraiment vécu cette phase comme une vie de deuil, enfin un moment de deuil. Et je sais que ça peut être très fort comme mot pour des personnes qui ont perdu un proche, mais vraiment c'était le mot deuil qui résonnait en moi et qui résonne toujours en moi par rapport à cette période. Et c'est vrai que c'est assez perturbant entre guillemets.
Oui, bah oui, mais en fait, évidemment, toute renaissance nous parle donc d'une mort qui nécessite la présence d'un deuil. Cela dit, j'ai vécu ça également, si tu veux, Charlotte, cette sensation de deuil. Et chez moi, en fait, le deuil n'a pas été le deuil de ma position sociale ou d'à quel point je pouvais être un rouage de la société. Tu vois, j'étais jamais qu'un guignol sur un marché. Hein, on pouvait m'enlever sans que personne ne s'en rende compte. Non, le deuil pour moi, ça a été le deuil de mon corps. Parce que je suis passé d'un certain fonctionnement avec mon corps à un autre d'une manière très rapide. Je faisais 1m85, 90 kilos, plein de muscles. Le fils de prof d'arts martiaux, ayant vécu à travers ça, ayant ces trucs un petit peu bourrins, un petit peu masculins du gars qui veut toujours être le lion le plus puissant de la pièce et donc qui, s'il ouvre pas grand sa gueule, bah va ouvrir grand ses poings, avec quelque chose comme ça, toujours de l'ordre un peu de la menace sous-jacente. C'était quelque chose qui me permettait de faire mon trou, de jouer des coups, de passer quand il fallait passer, mais je crois que je passais tout en force dans ma vie. Et même là où je me pensais subtil ou dans la douceur ou dans l'amour ou l'accueil ou l'entente, j'étais encore un bourrin. Et d'un seul coup, en fait, je me suis retrouvé avec l'impossibilité de faire de m'essouffler, de faire du sport, de prendre le risque de refaire l'AVC, puisque en fait, ils n'ont jamais pu le guérir complètement. Et donc, chaque montée en tension peut aboutir à ma mort. Donc, voilà, ma masse musculaire a fondu et je suis privé de mon ancien corps. Et pour moi, ça a été un deuil, mais c'est ahurissant ce basculement d'un fonctionnement à un autre où tu es obligé de développer par contre d'un seul coup un autre pouvoir que celui du corps.
Ouais, c'est un beau signe du ciel.
Oui, bah, y a quelque chose de magnifique. Alors, je toujours du même truc, hein, moi, les signes du ciel, je crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le ciel, mais en tout cas, je suis heureux que quelque chose, même si c'est moi, soit suffisamment plus grand que moi pour m'obliger à être moins con, puisque pour moi, c'était vraiment l'idée, c'est-à-dire d'apprendre à trouver des chemins dans la conscience, des chemins dans l'énergie, des chemins dans l'entente, la compréhension, les interfaces de partage avec les autres humains, plutôt que de dérouler un espèce de bulldozer sûr de son point de vue, sûr de sa force, sûr de sa rhétorique, etc., etc. Et j'étais vraiment cet homme-là, j'incarnais ça, tout en étant un gars que les autres décrivaient comme étant particulièrement plein de bienveillance et d'amour. Mais moi, quand je regarde ce type-là, je vois bien en fait qu'il s'agissait que d'un bourrin terrorisé à l'idée de perdre l'amour et qui passait en force la plupart du temps. Quoi.
Tu parles beaucoup de l'énergie. Tu disais dans le livre aussi, là où on porte notre attention, on dirige notre énergie. Ça m'a beaucoup fait penser à la prophétie des Andes, que tu as peut-être lu.
Oui, je crois que j'ai lu ça à sa sortie. Hein, donc, c'était...
Il y a quelques années.
pour oui, c'était il y a 20 ou 25 piges, ce truc, c'est ça. Après, c'était bon. Le sujet n'est pas la prophétie des Andes, mais la question de l'énergie.
Ouais.
J'ai perdu ta question.
Bah, c'était rebondir sur là où on porte notre attention, on dirige notre énergie.
Ah oui, ok. Oui, effectivement, pardon. Je crois que nous, humains, nous sommes des êtres forts, énergivores. On a vraiment besoin de beaucoup d'énergie pour notre fonctionnement. Et notre élan naturel, ça va être de capturer de l'attention. Parce que dès qu'on capture l'attention de l'autre, d'un auditoire, on va capturer de l'énergie. Au fond, en fait, c'est nous ce qu'on appelle de l'amour, mais c'est bel et bien de l'énergie qui arrive jusqu'à nous lorsqu'on capture de l'attention avec un auditoire. Et c'est vrai que c'est pour moi un point important, parce que quand on a compris qu'on avait vraiment besoin de cet auditoire, on comprend pourquoi on est capable de développer des stratégies de héros, ou des stratégies de victimes, des stratégies de survivants, parce qu'évidemment, l'idée, ça reste quand même de pouvoir avoir une légende suffisamment bankable pour qu'elle capture un max d'attention, donc qu'elle nous nourrisse un maximum. Et c'est souvent pour ça que je parle de l'attention qu'on a besoin de récolter. C'est pour parler en fait des stratégies sous-jacentes qui deviennent nécessaires à cette récolte d'énergie, d'attention.
Et du coup, c'est quoi pour toi le bon conseil à donner quand tu as une personne dans ton entourage, tu vois qu'elles te prennent une énergie absolument incroyable, parce qu'on a tous dans notre entourage des personnes que tu sens qu'ils veulent te limite te voler de l'énergie tellement ils sont en besoin. Comment réagir par rapport à ces personnes?
Le premier truc que j'ai déjà, c'est d'abord de se rappeler que ce que je ressens n'est pas forcément l'intention de l'autre. C'est-à-dire que si tu ressens que quelqu'un te pompe de l'énergie autour, ça ne signifie pas qu'il est dans une démarche pour te pomper de l'énergie. Et c'est très important ce truc-là, parce que le sentiment en fait qu'on nous pompe de l'énergie nous va nous donner envie de traiter l'autre de parasite ou d'une personne toxique, et de commencer d'utiliser ces mots qui vont renvoyer l'autre à lui à une mauvaise posture. Et donc, comme lui a une mauvaise posture et que j'en souffre, du coup, très naturellement, je vais en tirer la conclusion que moi, je suis le bien, que moi, je suis une bonne personne, et qu'il ne faut pas que je me laisse manger de la laine sur le dos, etc., etc. Donc d'abord, j'aimerais faire cette différence-là. Ce n'est pas parce que moi, j'ai l'impression qu'on me ponctionne que c'est la démarche consciente de l'autre. C'est bien de remettre les choses à leur place pour ça. Après, pour ce qui est de l'attitude qu'on peut avoir avec ces gens-là, je pense que ces gens n'ont la possibilité de nous bouffer de l'énergie ou de capturer notre attention que par notre incapacité à oser les décevoir. C'est-à-dire que si lorsqu'on te parle, ne joues pas forcément au jeu de la politesse qui consiste à tendre l'oreille gentiment en attendant que ça se termine, et que tu te permets d'agir comme tu as envie d'agir et de dire à l'autre, tiens, bah, si tu arrêtais de parler, parce que là, juste en fait, tu es en train de me gonfler, et qu'on osait poser ces choses-là avec clarté, il n'y aurait plus ce système-là. Et que souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on déguise, c'est-à-dire l'hypocrisie déguisée en la peur de blesser, qui nous fait subir les actions des autres, tout simplement parce qu'on n'ose pas poser notre énergie, comme si dire non faisait de nous un ennemi, dire non faisait de nous une mauvaise personne, et qu'on était obligé d'accumuler un sentiment de ne plus en pouvoir pour enfin avoir le droit de dire non. Et je crois que les vagues de burn-out viennent de là. C'est-à-dire que cette incapacité de décevoir, cette interdiction d'échouer, cette interdiction de décevoir la société, l'entourage, etc., les parents, qui amène les gens qui ont besoin simplement de faire des choix pour eux dans leur vie, à devoir passer par la case « j'avais pas le choix, c'était une question de survie ». Et je pense que c'est tout à fait dommage, tu vois, Charlotte, que une femme aujourd'hui ne puisse pas dire « désolé, je vais être décevante, mais je n'ai plus envie de faire l'amour avec mon mari, moi j'ai envie d'aller faire l'amour avec le voisin, et je n'ai pas besoin de créer un pervers narcissique, un monstre, une guerre, un divorce sanguinaire pour avoir le droit de vivre ma sexualité librement. » Je n'ai pas besoin de vivre une relation extrêmement conflictuelle avec mes collègues de bureau, de faire monter le truc en épingle jusqu'à ce que ça devienne une question de survie pour moi, parce que la société m'interdit de quitter un boulot parce que tout le monde est dans le chômage, parce que la société m'interdit de quitter un boulot parce que tout le monde ne jure que par le pognon et la réussite, et que du coup, si j'ai d'autres choix à faire, d'autres choix dans le cœur, ben, je vais être obligé de passer par la mort. Et je trouve ça dingue que tu sois obligé de passer par le burn-out pour simplement dire, moi, écoutez, j'ai envie de faire de la radio, de me tourner vers les gens et de faire autre chose. Mmh. Et simplement, je prends cet exemple pour toi, mais vous êtes des milliers et des milliers à devoir passer par la mort pour avoir le droit de simplement d'assumer vos choix. Et au fond, je pense que si on apprenait le droit de décevoir, le droit de laisser l'autre être frustré de ma non-réponse ou de ma non-présence, le droit d'être échouant, en quelque manière que ce soit, eh bien, d'un seul coup, en fait, les gens ne seraient plus obligés de passer par les cases « j'ai été victime d'un monstre »,« j'ai été victime d'un boulot »,« j'ai été victime de ceci ou cela », comme pour avoir enfin, lorsqu'on a notre carte de victime, toute légitimité pour enfin faire des choix. Juste pour finir ce long laïus, je remarque qu'il s'agit, si tu veux, aussi de la même chose avec la maladie. J'ai énormément de gens qui débarquent dans mes stages et qui ont eu le droit de commencer de vivre leur vie comme ils l'entendaient que lorsqu'ils avaient la carte cancer et qu'ils pouvaient poser la carte cancer. Donc là, ça fait un truc du genre moi, j'ai plus envie de bosser depuis des années. Là, je peux, j'ai ma carte chimio. Moi, j'avais plus envie avec les gamins, j'en peux plus, j'ai besoin d'air et machin. Ah, là, en fait, j'ai un cancer, j'ai le droit. J'ai envie de tout larguer pour partir à la pêche aux Maldives. J'ai un cancer, j'ai le droit. Est-ce qu'on est obligé de passer par la mort pour faire des choix? Et aux yeux de qui? Parce qu'au fond, en fait, c'est quel est le regard qui est posé sur nous qui nous demande finalement de devoir systématiquement tout légitimer dans nos vies? Parce que ça pose cette question-là.
Mais je partage complètement. D'ailleurs, c'est l'objet du podcast, hein, se dire n'attendez pas d'avoir un accident de la vie pour vous rendre compte que vous avez le droit de choisir. Après, tu vois, moi, j'ai jamais dit que j'avais fait un burn-out à cause d'autres personnes. Clairement, je pense que cet environnement-là ne m'allait plus ou peut-être ne m'a jamais été. Et même si, évidemment, que dans toute situation, dans toute entreprise, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables, moi, tu vois, c'est ce que je dis aux personnes, c'est apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter et on vous respectera. Et moi, je sais que une des choses qui m'a conduit au burn-out, c'est que j'ai dit oui à des choses, mais en fait, j'aurais jamais dû accepter ces choses-là, en fait. Mais
c'est exactement ce que j'appelle la peur de décevoir. Et que, en fait, si tu avais été au fait de ton droit légitime d'être décevante, tu n'aurais jamais vécu tout ça.
Mais je pense qu'il y a
quelque chose qui est interdit. Hein. On n'a pas le droit.
Mais après, je pense qu'il y a même, tu vois, il y a le décevoir par rapport aux autres, en effet, par rapport au regard de la société, de ton boss, de tes équipes et compagnie. Mais il y a aussi, je pense, la déception de soi-même, en fait, de se dire, de pouvoir imaginer que c'est un échec, alors qu'en fait, ça n'est pas un échec. C'est juste qu'en fait, quand tu te connais vraiment, tu sais qui tu es. Tu sais là où tu es bien et tu t'inventes pas une vie qui n'est pas la tienne. Tu vois, il y a une semaine, j'ai donné une conférence pour HEC au féminin. Il y a une personne qui m'a posé la question de dire, mais ok, on n'a pas fait toutes ces études-là. Enfin, en gros, c'est un peu un échec finalement de se dire qu'aujourd'hui, tu fais des podcasts alors que tu avais fait une école de commerce et que tu avais été CMO et compagnie. Je dis, ben non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis bien, je suis à ma place, je suis heureuse et que tout ce que j'ai appris précédemment, bah, je m'en sers dans ma vie au quotidien. Mais on a encore beaucoup de personnes qui imaginent que c'est un échec d'être qui on est vraiment, en fait.
Oui, par exemple. Après, si tu veux, pour remettre l'équation comme je la vis, soit si tu n'oses pas décevoir l'extérieur, tu vas décevoir l'intérieur. C'est-à-dire que si tu n'oses pas déranger, décevoir ton papa, ta maman, ton patron, ton conjoint à un moment donné, ben c'est toi qui vas être déçu de toi, tout bêtement. Donc tout ce que tu n'oses pas faire vivre à l'autre, ben tu vas te le faire vivre à toi. Et je crois en fait que c'est ce truc-là, on peut pas l'enseigner à nos enfants d'une autre manière qu'en le vivant. C'est-à-dire que si, en tant que parents, on n'apprend pas à oser échouer devant nos enfants, dire je me suis planté, dire je fais marche arrière, dire j'y arrive plus et je pleure devant toi, mon gamin, ben en fait je ne lui enseigne pas le droit légitime qu'il a de faire marche arrière, de s'être trompé, d'avoir un autre avis, peut-être simplement d'avoir changé. Et que tant que je ne vivrai pas ça par l'exemple, ça servira à rien de prêcher à droite, à gauche le droit qu'on a d'être soi si en fait on se le refuse devant nos enfants par peur de les fragiliser, par peur de les troubler ou une fois de plus par peur de décevoir. Et à la fin, on sera toujours celui qui sera le plus déçu lorsqu'on n'ose pas décevoir.
Ouais.
Et je pense qu'on parle le même langage.
Mais d'ailleurs, tu vois, c'est assez fou parce que quand, depuis que j'ai fait mon burn-out, ça fait bientôt 2 ans, moi, j'en ai toujours parlé de façon très libre et libérée. Ça n'a jamais été un tabou pour moi et même ça a pu déstabiliser des personnes que j'en parle de cette façon-là. Il y a des gens qui m'ont dit, mais vu la façon dont t'en parles, bon, t'as un petit coup de fatigue. Non, c'est pas juste un petit coup de fatigue. Mais du coup, ça a déstabilisé des personnes et le fait d'en parler de façon très libérée, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui en avaient fait un. Et des gens, pas forcément des gens très proches, mais des gens quand même du deuxième cercle, on va dire. Et c'est fou de se dire qu'en fait, t'as fait un burn-out et tu continues à être encore dans le déni dans le déni. En tout cas, le fait de ne pas le dire, mais j'ai envie de dire, tu t'as déjà brûlé de l'intérieur. Enfin, essaye de faire en sorte que la fumée elle sorte pour que là, ça soit fini, quoi.
Et oui. Et puis plus le conditionnement est puissant, plus la violence de ce qui va être vécu à l'intérieur sera puissant, parce qu'il y a quelque chose qui n'est apparemment pas remis en cause et qui, à mon avis, ce serait intéressant de remettre ça en cause, qui est la fameuse notion de réussite. Parce que cette gamine qui te pose cette question depuis ses bancs HEC et qui pense en fait que son diplôme, puis son poste, puis le pognon à venir sont une réussite, je trouve ça dur. Je sais pas si les gens sont conscients que lorsqu'on parle de réussite, c'est-à-dire de la possibilité de réussir une vie, on parle de la possibilité d'échouer une vie. Et moi, je suis carrément scandalisé par l'idée qu'on puisse dire de quelqu'un « Ah, machin, il a échoué sa vie ». On n'a pas le droit de dire ça de quelqu'un quand on sait en fait ce que c'est que de vivre une vie, les sentiments à l'intérieur, comment c'est pas si évident de traverser l'enfance, l'école, la lutte pour la lumière, la performance, être reconnu, être aimé, se retrouver en sécurité, etc., etc., les heures que ça signifie de vivre, et que quelqu'un la débarque du haut de sa montagne avec une liste de choses à cocher pour dire, voilà, si t'as coché ça, t'as réussi ta vie. Je trouve ça d'une violence inouïe, je déteste même l'idée. Donc, en fait, pour moi, dire de quelqu'un qu'il a réussi sa vie, ça signifie que d'autres l'auraient échoué, et je ne me reconnais pas le droit de me poser en juge suprême pour dire, voilà, telle vie, c'est une vie réussie, ou telle vie, c'est une vie échouée. Je perds pas de vue qu'on est entre occidentaux, friqués, blancs, avec des frigos pleins, et qu'avoir des discussions à propos de réussir la vie, lorsqu'il y a la moitié de l'hémisphère qui est en train de crever la dalle, il y a un truc qui me pose aussi une question de dire, mais alors du coup, en fait, si tu nais à cet endroit-là, réussir la vie, c'est même pas une piste. Donc, puisque réussir la vie, ça ne passe que par la posture sociale et bref, vous avez compris où je veux en venir. Donc, pour moi, réussir une vie, ça ne peut être cette vision le mercantile de la vie, quoi. Ça peut pas être ça. Il y a un autre truc aussi que je perds pas de vue, et je sais pas comment tes auditeurs naviguent avec ces notions là, mais je perds pas de vue qu'une vie, c'est une succession de sentiments, bel et bien de sentiments, et que notre rapport à la matière, il est intéressant que par rapport aux sentiments qu'elle déclenche chez nous. C'est-à-dire que quand tu allumes un feu dans ta cheminée et qu'il y a des amis autour, ça déclenche un sentiment chez toi. C'est pas le feu qui te rend heureux. C'est pas avoir un feu qui rend heureux. C'est pas avoir une maison qui rend heureux. C'est le sentiment que la matière crée chez soi. Alors, les gens vont en Inde et ils vont là-bas et ils se disent, mais c'est incroyable, là-bas ils n'ont absolument rien et ils sont plus heureux que nous. Qu'est-ce qui se passe? Et après, on revient avec des idées du type, ah, mais peut-être qu'on devrait de la décroissance, ralentir, la simplicité, le minimalisme. Mais non, c'est une fausse piste. Les gens sont heureux tout simplement parce que le sentiment est quelque chose d'inaliénable. Personne ne peut t'obliger à ressentir un truc sur commande. Je peux pas te dire, Charlotte, sois triste. Charlotte, sois heureuse. Charlotte, sois dans le ressentiment. Tu es comme tu as envie d'être, ton sentiment, il t'appartient. Tu sais, ça renvoie sur ce film de Roberto Benigni qui nous disait « La vie est belle ».
Il est magnifique, ce film.
Eh oui, il est magnifique, ouais. Pour cette raison incroyable, c'est qu'il est en train de dire à travers ce film, tu peux me mettre dans un camp de concentration, mais tu peux pas générer un sentiment chez moi si j'en veux pas. Si j'ai envie, moi, de sentir ça, je sens ça. C'est aussi, tu sais, le même truc que nous disait cet homme qui nous disait, lorsqu'il avait perdu son fils dans les attentats, et qui nous disait « Vous n'aurez pas ma haine ». où il nous disait la même chose. Il nous disait, tu peux pas déclencher chez moi des sentiments que je ne veux pas avoir. Moi, j'ai pas envie d'avoir la haine. Tu peux me prendre mon fils, mais tu peux pas déclencher chez moi des sentiments que je ne veux pas avoir. Et quand on a bien compris que personne ne pouvait déclencher chez nous les sentiments qu'on a, là, on comprend que notre pouvoir sur la vie, il n'est pas un pouvoir mercantile nous permettant d'obtenir des objets qui rendent automatiquement heureux. Les objets ne rendent pas automatiquement heureux. Tous les gens qui ont du fric ne sont pas forcément heureux pour autant. Ce qui est notre libre arbitre, notre pouvoir, c'est de choisir les sentiments qu'on vit. Et d'un seul coup, le sentiment qu'on vit, bah lui, là, ça nous appartient. Là, on a la main là-dessus. Et si on a envie d'être en colère tous les jours plein de fric ou en colère tous les jours parfaitement pauvre, bah ce choix-là nous rendra de toute façon malheureux. Et c'est bon de revenir à ces endroits-là, sinon on finit par perdre de vue en fait que il y a d'autres pistes que réussir professionnellement, amasser de la reconnaissance, amasser du talent, amasser du pognon. Il y a d'autres pistes qui permettent d'avoir une vie dans laquelle on est parfaitement bien parce que on vit avec des sentiments agréables.
Ça me fait penser au livre de Daniel Blouin. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un Canadien que j'ai interviewé qui a écrit un livre dont j'ai perdu le nom. C'est Sortie de zone. Enfin, il a fait Sortie de zone, Entrée de zone, et c'est un peu un expert en changement de vie parce qu'il a expérimenté différents changements de vie lui-même. Et Daniel, dans son livre, raconte l'histoire d'un New-Yorkais qui arrive, je crois que c'est au Mexique, dans un petit port de pêche et qui voit un pêcheur qui est serein, qui est bien et compagnie. Et le pêcheur lui dit, mais pourquoi tu travailles comme ça et compagnie? Ben, lui dit, mais attends, tu vois, ça me permet de pouvoir passer des vacances et d'être ici, d'avoir les moyens de pouvoir le faire. Et le pêcheur, il lui dit, mais regarde-moi, regarde ma vie. Moi, j'ai ça tous les jours, en fait. Et j'amasse pas tout ce que tu as. J'ai pas ta réussite sous potentiellement sociale, mais je suis heureux. Et du coup, je trouvais que ça faisait, ça fait réfléchir. Tu dis, en effet, alors oui, il a les moyens de partir dans le monde entier, ce businessman new-yorkais. Mais l'autre, il est heureux tous les matins, en fait.
Oui, mais dans ce que je veux expliquer, parce que effectivement l'histoire elle est magnifique, ça me parle tout à fait, mais je veux expliquer par là en fait que le New-Yorkais peut parfaitement courir après le pognon, le succès et la reconnaissance et déclencher chez lui des sentiments parfaitement agréables.
Bien sûr.
Et que en fait on pourrait sortir de cette espèce de clivage soit moine soit Ferrari avec voilà, si tu quittes ton poste d'élite française ou d'élite mondiale et que tu te tournes vers la simplicité et l'intérieur de ton cœur, tu seras béni des dieux. Non, 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 et renom. Je prêche vraiment cette liberté d'action qui dit en fait que tu as le droit de désirer le succès, le pognon et la reconnaissance, et tu as le droit de désirer la simplicité, le minimalisme et la convivialité. Dans tous ces espaces-là, l'offrande sur cette planète sera la même pour toi comme pour tous les autres. Tu as le choix et le pouvoir sur tes états d'être. Donc, tu as la capacité d'avoir la vie la plus incroyable que tu veux, selon, depuis toi. Et c'est ça qui m'importe.
Ah, mais on est d'accord.
Ouais, bien sûr. D'un seul coup, ça nous sort de la perspective extérieure obligatoire de passer par des paramètres soit du gentil pêcheur simple au bord de sa rivière, soit du méchant trader new-yorkais. Non, en fait, un être humain, du début à la fin de sa vie, a la main sur ses sentiments et il serait bon qu'on s'en rappelle.
Ah oui, non, on est complètement face. Ce qui compte, c'est d'être aligné et d'être à l'aise avec ce qu'on a. En fait, si t'es trader à New York et que t'es heureux, c'est ce qui compte. C'est juste de se dire que là où tu es et où que tu sois, hein, parce que tu peux être pêcheur frustré, c'est possible aussi. L'idée, ouais, c'est d'être à ta place, en fait.
Oui, bien sûr, parce que dans l'histoire-là, on oublie que le pêcheur, il dort pas dans le même lit. Ni avec la même personne que l'autre, mais le truc qui m'importe aussi dans cette affaire-là, c'est de se rappeler que la vie est une succession de hauts et de bas. À aucun moment on vit dans un état d'être stabilisé de « alors Charlotte, ah bah parfaitement heureuse depuis mon burn-out, tout est réglé, et toi Francky, impeccable, je nage dans le bonheur parce que j'ai développé mon talent, ma réussite, et maintenant, évidemment ». on peut rappeler et déculpabiliser tout le monde ou soulager tout le monde en rappelant que le bien-être est fonction du mal-être et qu'on n'aurait aucune conscience de la joie d'être simplement en vie si on n'était pas passé par un lit d'hôpital, de la joie de simplement respirer le grand air quand on a respiré l'air confiné, et ainsi de suite. Oui. Donc, d'accepter les hauts et les bas, c'est quand même accepter le mouvement inhérent à l'incarnation, à la vie, et on doit quand même, à un moment donné, respecter ces mouvements-là. Si on cherche une vie billard, sans la moindre aspérité, où on devrait ressentir en permanence un sentiment d'horosité ou de bonheur permanent...
On n'est pas chez les bisounours.
Quel ennui déjà, et puis surtout, quelle fausse piste. C'est-à-dire s'engager dans cette direction, alors que c'est absolument et strictement impossible, puisque l'un est fonction de l'autre, c'est-à-dire le mal fonction du bien, je pense qu'on doit tous se détendre sur l'affaire et accepter les moments creux en disant, bon, bah voilà, je suis dans les choux aujourd'hui, je me sens paumé, il n'y a plus de sens, et ben, je vais entrer dans ma petite nuit, dans ma petite, nouvelle lune, et puis on verra comment ça ressort dans quelques jours, quoi.
C'est un film, je trouve génial, c'est Vice Versa, qui est un dessin animé, et qui permet justement de prendre conscience vraiment que, voilà, qu'une émotion de bonheur, tu l'auras eu parce qu'il y aura eu potentiellement la tristesse juste avant, et que si tu enlèves le moment de tristesse juste avant, bah, ça sera pas, tu n'auras pas potentiellement vécu ce moment de bonheur, en fait.
Oui, de joie. C'est ça. Moi, je connais un truc que je ne connaissais pas avant. C'est que suite à mon passage à l'hôpital avec l'AVC, où j'ai vécu quelques semaines au taquet de morphine avec une douleur permanente et ahurissante, grâce à ces moments qui étaient vraiment horribles à vivre, là, quand je me couche le soir et que simplement j'ai mal nulle part, ça déclenche un sentiment de bonheur chez moi. Et des années plus tard, hein, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai vécu ça. Et le bonheur est toujours là. Oui. Donc, c'est, voilà, évidemment. Mais toi, tu dois rencontrer des gens comme ça. Moi, je les rencontre, ces gens-là, qui viennent me voir en stage et qui me disent, c'est incroyable, mais le pire moment de ma vie a été le moment le plus fondateur de ma joie, de ma liberté et de mon bonheur.
Ah ouais, clairement, bah typiquement Olivier Garibal que j'ai interviewé, lui on l'opérait pour un simple kyste et en fait il s'est réveillé avec la moitié du visage paralysé et l'interrogation sur le fait que ça soit en fait finalement un kyste malin et sachant qu'il allait être papa genre 3 semaines après, un truc comme ça. Et il raconte voilà que les heures sur ce lit d'hôpital, ça a été les pires de sa vie et que tu vois ça, alors je sais pas, ça doit dater d'il y a un petit peu moins de 10 ans cette histoire, et aujourd'hui il a toujours pas retrouvé la totale mobilité de son visage. Et lui c'est un très grand coureur, il fait des trails et compagnie, il pouvait pas boire dans une paille, donc ça veut dire que enfin le truc qui le faisait vibrer au plus profond de lui, il pouvait plus le faire, enfin et il a complètement perçu, enfin voilà, changé son mode de voir la vie suite à cet événement. Et, ouais. Et bon, pour le coup, il a une trace visible quand il se regarde dans un miroir, hein, de tout ça. Après, il s'est battu et il a retrouvé une mobilité, en tout cas partielle, de la moitié de son visage qui lui permet de pouvoir manger normalement et parler normalement, ce qui n'est pas rien dans une vie.
Moi, ce que j'espère, tu vois, à travers toutes les histoires là, que tu me racontes et que tu ramènes, la Charlotte, c'est j'espère que vraiment, à un moment, on pourra opérer ces changements de vie sans être obligé de se faire passer par ces moments de pire violence qui peuvent paraître des phénomènes extérieurs, qui peuvent paraître des centimes, des trucs de « ah bah pas de chance, je tombe sur une entreprise comme ça, pas de chance, je suis tombé sur le mauvais chirurgien, pas de chance, je suis tombé sur telle voiture, pas de chance, j'ai fait tel type de rencontre ». Moi, je crois pas trop à ce truc de loterie là, de chance, pas de chance. Je crois que on a pas mal de chemin à parcourir pour apprendre à avoir le droit de changer de direction dans la vie sans être sans devoir passer par ce genre d'extrême violence contre soi, quoi. Vraiment, je le souhaite vivement que ça arrive. J'espère qu'un jour on rigolera de ton podcast en disant oh là 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 là, tu te rends compte qu'à l'époque pour juste changer de direction fallait qu'on passe à la casserole. J'espère qu'on en rira dans quelques décennies.
Bah heureusement, enfin tu vois, dans toutes les interviews que j'ai fait là, j'en ai reçu à peu près une cinquantaine. Heureusement, il y en a qui ont réussi à changer de chemin avant de se faire vraiment mal.
Ouais, cool.
Ouais.
C'est bien. Il y a des plus courageux que d'autres.
Ouais, ouais. Il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi la réussite ?
Pour moi, la réussite, c'est lorsque je me regarde dans le miroir et que je suis OK avec ce que je regarde. C'est vraiment là que ça se situe. La réussite, pour moi, ne peut être qu'un phénomène entre soi et soi. Dès qu'il est à l'extérieur, il retourne dans la possibilité d'échouer ou de réussir aux yeux du monde. Je pense que seul un humain peut se donner le qualificatif. Seul un humain pour lui-même peut dire j'ai échoué ou j'ai réussi, fonction de son truc. Et moi, en fait, quand j'arrive à me regarder dans la glace et à être fier de l'homme que je vois, j'ai le sentiment de réussir. Pour moi, c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Franck de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ?
Alors attends, 6 ans, il me renverrait où ? Qu'est-ce qu'il me dirait lui ? Je suis convaincu qu'il me dirait bien joué.
C'est chouette.
Il n'y a aucun doute, il me dirait bien joué.
Dans la vie,
C'est en ça que j'avais de l'avance quand j'avais 6 ans par rapport à maintenant où je vais en avoir 48 cette année. C'est qu'à 6 ans, j'avais déjà compris l'essence de ma présence sur Terre qui était venir jouer. Et il a fallu que je m'en éloigne pendant 40 piges pour que lui vienne me réveiller de haut de ses 6 ans et me dise « Allez, viens jouer. »
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ?
Alors, je ne crois pas à ça, mais je veux bien répondre à la question comme si je pensais que ça fonctionnait comme ça.
Non, pourquoi tu ne crois pas à ça ?
Parce que en fait, on a le sentiment de renoncer à des choses alors que nous sommes capables aujourd'hui de vivre dans l'ère du « et ». Et je pense qu'on est vraiment en train de basculer, si tu veux, Charlotte, pendant des années, pendant, j'ai envie de dire, des millénaires, tu vois, tu pouvais être qu'un homme ou une femme. Et si tu es au courant, aujourd'hui, en 2021, tu peux être un homme et une femme. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train de se transgresser, une ancienne frontière qui est en train de se gommer et qui, du coup, comme elle est en train de pouvoir s'estomper, si tu veux, il y a comme une espèce de résistance, un sursaut de résistance qui s'observe dans la société par une forte polarisation des positionnements, où les gens sont très contre, très pour, très Trump ou très pas Trump, très vaccin ou très contre, et ainsi de suite. Et cette polarisation, elle n'est que la symbolique de ce qui est en train de lâcher, c'est-à-dire le monde parfaitement binaire, de soit je suis le bien, soit je suis le mal, soit je suis ceci, soit je suis cela. Et aujourd'hui, on est en train de passer à l'ère du « et ». Je suis le bien et le mal, je suis un homme et une femme, je suis grand et petit, je réussis et j'échoue, et je sors de la binarité Walt Disney qu'on me vend depuis l'éternité. Et sortant de cet aspect-là, aujourd'hui, choisir une chose n'exclut pas l'autre. Choisir une chose ne repousse pas l'autre dans un avenir incertain. On peut parfaitement faire des expériences aujourd'hui simultanées, mener deux fronts différents, trucs qui pouvaient paraître à l'époque parfaitement antinomiques. Et c'est pour ça que je ne pense pas que mes choix me demandent de renoncer. Mais je peux dire à quoi j'ai renoncé peut-être consciemment pour répondre à la question. Et le truc, en fait, pour mes choix, les trucs auxquels j'ai dû le plus renoncer, ça reste quand même j'ai dû renoncer à la sécurité de l'homme fiable que je présentais au monde. Je suis passé de celui qui est le chevalier blanc, pur, sans reproche, qui fait tout bien, le bon fils, le bon mari, le bon père, qui était un déni ambulant de ce qui se passait en lui. J'ai dû renoncer à cet homme-là qui avait toujours bon partout, tout le temps, Et ça a été vraiment chaud pour moi d'aller à la rencontre de mon arrogance, de ma prétention, de mon racisme, de ma méchanceté, de ma veulerie, de toutes ces facettes qui font de moi un humain et qui étaient toujours minimisées, rejetées, cachées, travesties de manière à obtenir l'énergie, approbation, amour dont on parlait au début de cet échange. Et je crois que il a fallu que je renonce à lui, à carrément ce mec-là. Il y a un morceau de moi là, à qui j'ai dû dire adieu parce que tu as raison tout le temps et tu me rends malheureux.
Et quand tu as fait du coup ce virage, comment ça s'est passé par rapport à ton entourage? Est-ce qu'il y a des gens que tu as laissés du coup sur le côté?
Oui, le plein de gens, mais je n'en ai cure. Tout simplement parce que j'ai pris conscience avec le nombre de rencontres que j'ai fait, que lorsque tu dis quelque chose, si quelqu'un a envie d'être victime de tes mots, victime de ce que tu dis, victime de ton action, il trouvera le moyen de l'être. J'ai remarqué en fait que lorsque j'avais par exemple quelqu'un qui venait me voir et qui avait la structure de quelqu'un qui se dit rejeté, eh bien cette personne, quand tu lui parles, il est scotché en disant « Mais oh mon Dieu, mais on m'a jamais parlé comme ça, mais comment peut-on me parler comme ça ?» Et il se sent rejeté. Et si tu ne lui parles pas, il dit « Mais enfin, comment tu peux ne pas me parler ?» Et il se sent rejeté. Et une fois que tu as capté que les gens pouvaient faire de tes mots à peu près tout ce qu'ils avaient envie, et toi tu dois le voir sur le web, si tu travailles sur le web, forcément tu dois avoir des commentaires, et tu vois que certains vont de toute manière avoir comme a priori comment je vais pouvoir tailler un short à Charlotte.
Écoute, j'ai de la chance en plus d'un an que ça ne me soit jamais encore arrivé, donc je...
Génial. Eh bien, écoute, c'est un appel que je pose aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, hein, je pense que tu as compris, si quelqu'un veut être blessé par toi, bien il sûr. Faut toujours un angle pour se sentir blessé par toi, surtout si tu exprimes clairement ta liberté. Effectivement, il y a des gens qui ont dû se sentir rejetés, d'autres blessés, d'autres abandonnés, d'autres ceci, cela. Mais je peux pas en fait créer les sentiments à la place des gens. Celui qui a fait le choix de se sentir blessé ou brimé ou machin, fait ce choix-là, il en fait l'expérience. Et je trouve ça douloureux, mais ça le regarde.
C'est quoi là pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Comment tu l'as gérée?
La plus grande difficulté pour moi dans ma vie, ça a été de voir mon père mourir trop jeune. Il est parti quand il avait 56 ans. Moi, j'étais pas chaud du tout pour le voir partir. Comment je l'ai géré? Mal. J'ai eu mal, j'ai serré les dents, j'ai tenu le coup bêtement, peut-être parce que je pouvais pas plus m'effondrer que ce que je me permettais de m'effondrer. Mais c'est ça le truc, je pense, si je réponds honnêtement à ce que tu es en train de me poser. Pour moi, le moment le plus dur, consciemment, parce que je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais qui ont été vécus dans de l'inconscience. Mais ça reste totalement dégueulasse pour moi de savoir que cet homme ne pourra jamais partir à la pêche avec son fils, avec son petit-fils, puisque moi, en fait, la pêche, je m'en fous. Mais je voulais vraiment que mon père et mon fils puissent se rencontrer. Mmh. Et que la rencontre n'ait pas eu le temps de prendre, que mon fils n'ait pas pu prendre la mesure de qui est son grand-père et que mon grand-père n'ait pas pu prendre le plaisir de rencontrer l'homme qui est devenu mon fils. Ça reste quelque chose que je trouve très douloureux. Voilà. Et je souhaite le laisser comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est douloureux, mais c'est une douleur que j'aime. Hein. Il est des douleurs qui simplement me rappellent l'amour et à quel point j'aime ces hommes-là, que ce soit mon père ou mon fils finalement. Et voilà, c'est mes douleurs à moi, celles que je ne souhaite pas changer, celles dont je ne veux pas faire le deuil. Je veux que ça continue de me faire mal quand j'y pense.
T'avais quel âge?
De l'aimer. J'avais quel âge? J'avais 33 ans quand il est parti.
D'accord. Ça a été quoi tes plus grandes peurs et aujourd'hui c'est quoi tes peurs qui te restent et comment tu les traites?
Alors, c'est cool tes questions, Charlotte, c'est sympa que tu ton podcast. C'est vrai, c'est cool.
Ça merci pour le finalement.
Non, mais je dis finalement parce que j'en fais beaucoup des interviews et pour moi, c'est juste à dérouler mon truc habituel. Je sais presque là où on va d'avance Et là, en fait, comme tu es quelqu'un qui m'interviewe et qui n'est pas dans le domaine particulier de, j'ai envie de dire, de mon métier, de la spiritualité ou du fonctionnement de l'énergie, de la thérapie, de la guérison et machin, bah du coup, tu abordes le truc autrement et ça m'emmène ailleurs et c'est vraiment agréable.
Ah bah, écoute, j'en suis ravie.
C'est vraiment agréable. Mes peurs et comment je les traite, j'ai peur, ce qui déclenche de la peur chez moi, c'est lorsque je crois que je vais être renvoyé à l'enfant fautif. C'est-à-dire que la peur chez moi, c'est d'être abandonné par des adultes qui vont considérer que d'un seul coup, j'en fais pas assez, je suis pas suffisant. J'ai cette croyance-là. Et ça, c'est une peur, en fait, qui est... profonde, donc que je connais par cœur, puisque c'est mon métier de connaître les fonctionnements des gens, et je ne la traite pas, hein, puisqu'il y avait ça dans ta question, comment tu le traites, je ne le traite pas. Lorsque j'ai peur, et j'accepte d'avoir peur, et je ne considère pas que les peurs doivent être quelque chose qui doivent être éradiquées dans la vie, mais simplement quelque chose qui doit être connu et reconnu.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui ?
Mes enfants n'ont pas peur de moi. C'était un challenge.
Par rapport à l'homme que tu étais avant ?
Par rapport à la façon que j'ai de prendre tout l'espace, j'ai une forte autorité sur mon territoire, je suis quelqu'un qui impressionne les gens autour, et je veux pas que mes enfants agissent par respect, par déférence, par peur, mais par gratuité. Et lorsque je vois mes enfants libres d'être eux autour de moi, libres d'être cons, échouants, paumés, et qu'ils ne cherchent pas à se redresser ou à se corriger en ma présence, je suis fier de moi.
As-tu envie de dire à une personne que tu croiserais qui ne connaît absolument pas ton histoire et qui te dirait « tu n'en es là que grâce à de la chance » ?
Je lui dirais « t'as raison ». Je lui dirais « t'as raison ». Parce que mon sentiment d'avoir la main ou d'avoir contrôlé le navire n'est que la perspective d'une fourmi qui croit dominer le monde. Et je pense que effectivement, dans la mesure où les rouages sous-jacents à l'ordonnancement du monde m'échappent et m'échapperont jusqu'au terme, puisqu'on n'a pas fini de s'extasier encore sur la reproduction du pissenlit et pourtant on croit dominer la situation, je pense que cette personne aurait totalement raison, même si au passage elle égratignerait l'image de celui qui veut absolument s'octroyer les bons points de tout ce qui lui arrive de positif dans la vie.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner aujourd'hui ?
Oui, trompe-toi et trompe-toi encore. Parce que ce qui arrive de splendide dans une vie, c'est tout ce qui arrive par erreur, ce qui arrive par non-calcul, ce qui arrive parce qu'on était parti par là et qu'en fait on arrive ici. Et lorsque on osera aller à la rencontre de se tromper, on verra qu'on va au fond à la rencontre du miracle. Et que ce serait bon, en fait, d'enseigner ça d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, pour répondre pratiquement à la question que tu es en train de me dire, de me poser, c'est ça les mots que je dirais. Trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore.
C'est quoi tes prochains défis ?
Là, en fait, je suis en train d'apprendre à souder à la maison, et c'est vraiment galère. Parce que faut du métier, il n'y a rien à faire, quoi. Tu as 2 secondes pour te retrouver devant le truc, puis après, faut du métier pour faire une belle soudure. Et comme tu peux le voir, mes défis sont vraiment très tranquilles, parce que je ne suis pas du genre à me foutre la pression, moi.
Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
À qui j'ai envie de dire merci et pourquoi ?
Ouais.
Ouais, alors ça me branche aussi comme question. J'ai envie de dire merci, alors d'abord à quelqu'un qui ne l'entendra pas, j'ai envie de dire merci à Jacques Brel d'avoir montré qu'on pouvait ouvrir grand sa gueule en toute humilité.
Super. Un grand merci, Franck, pour ce bon moment ensemble.
Merci,
et puis, j'espère à très vite.
Avec plaisir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Nous nous retrouvons donc fin août pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, avec une personne que je rêvais de rencontrer jeune. Si je vous dis « Sous le soleil » et que je rêvais d'interviewer, car elle est devenue sophrologue. En attendant, je vous souhaite un magnifique été avec plus de 70 épisodes en stock et plus de 102 heures d'enregistrement. Je vous laisse en bonne compagnie sur la plage. Au revoir.